Voilà, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu. On va ouvrir la Bible dans deux textes d'introduction. Le premier texte se situe dans l'épître de Paul à Tite. Et en suivant, nous irons dans les Actes des Apôtres. Mais tout d'abord, Tite, chapitre 1er, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles et qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Notre second texte, nous allons le trouver dans les Actes des Apôtres au chapitre 14, les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Gloire à Dieu. On va à partir d'aujourd'hui et dimanche prochain, aborder un sujet important, car il touche à la structure de l'Église, c'est le sujet de la collégialité des anciens. Et pour nous aider à suivre un peu le message, j'ai préparé un diaporama. C'est un sujet important parce que d'abord, nous le trouvons dans la parole de Dieu. C'est un sujet important parce que nous avons là un sujet qui touche à la gouvernance de l'Église et à sa structure, à son organisation. Alors pourquoi un tel sujet? D'abord, bien sûr, parce qu'il est dans la parole de Dieu et nous voyons ce principe de la collégialité dans la parole de Dieu, des anciens, et puis j'ai rajouté les diacres au départ, j'avais pas prévu, mais j'ai rajouté les diacres et les diaconesses, on en parlera aussi. Mais parce que parfois il y a une méprise quant au terme de diacre, mais on verra cela une autre fois. C'est un sujet important d'ailleurs parce que c'est dans la parole de Dieu et aussi parce que c'est une aspiration du Conseil de l'Église lorsque, pour la première fois, nous avons pris contact avec l'Église alors que nous étions encore en Tunisie à ce moment-là. Nous sommes venus en France prendre contact avec le Conseil de l'Église et une des premières questions qui nous a été posée par les frères et sœurs du Conseil, c'est à savoir ce que nous pensions et de la collégialité dans l'Église. Parce que le Conseil aspirait à une gouvernance de l'Église qui se passe dans la collégialité. C'est une aspiration et c'était aussi une volonté de l'Église, du Conseil de l'Église avant, j'allais dire, la division qui n'avait pas pu aboutir à ce moment-là, mais cet désir, cette aspiration, cette volonté était toujours présente et nous avons estimé maintenant le moment arrivé de pouvoir passer des paroles à l'acte, car il serait dommage d'apporter une étude sur le sujet sans mettre en pratique ces choses que nous allons voir ensemble. Avant de parler, à proprement parler, des anciens et des diacres, il est bon aussi de voir ensemble ce qu'est la collégialité et de considérer, en fin de compte, que le principe de la collégialité se trouve dans la parole de Dieu. Alors, vous allez me dire pourquoi alors cela n'est pas en place depuis tant d'années. Cela s'explique parce qu'en fin de compte, nous voyons de par tout le monde des églises qui sont organisées d'une manière différente les unes des autres. Cela s'explique par l'histoire même de ces églises et par aussi, il ne faut pas l'oublier, l'influence culturelle dans le pays dans lequel elles se trouvent. Il y a une progression au niveau de la structure de l'église. On voit que il y a d'abord l'implantation de l'église, on le voit dans les Actes des Apôtres, dans ce texte que nous avons lu. Ils ont évangélisé, puis après, ils ont enseigné, formé, fortifié les disciples, et après, ils ont structuré, organisé l'église en nommant des anciens dans chaque église. On retrouve cela aussi dans le premier texte que nous avons lu tout à l'heure, dans l'épître de Paul à Tite, où l'église, des églises ont été implantées sur cette île de Crète, mais ces églises-là avaient besoin de se développer, et l'apôtre Paul dira à Timothée, lui rappelle la mission qu'il lui a confiée, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Les églises avaient été implantées, mais elles n'avaient pas encore été organisées. Donc on voit qu'il y a une certaine progression. Aussi, ça s'explique que parfois, si certaines églises n'ont pas été plus loin, c'est qu'elles ont été figées dans leur histoire. Figées dans leur histoire. L'histoire a du bon parce qu'elle nous rappelle quelle est notre identité. C'est bien de savoir d'où nous venons. Mais il ne faut pas que l'histoire nous fige dans un carcan. Aussi est-il important que ce soit pour l'histoire, que ce soit pour la culture, de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait et que nous connaissions quelle est la volonté de Dieu pour l'Église. Il en est de même pour la culture. La culture peut aussi ne pas, j'allais dire, contrer la parole de Dieu, mais puissions-nous encore considérer l'impact de la culture sur une église, car elle est non négligeable, plus qu'on peut se l'imaginer, afin que nous ne puissions pas tomber dans le même travers que les pharisiens, Jésus leur dira, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Mais c'est tellement dans nos habitudes qu'on pense même que nos habitudes sont bibliques. Alors que, parce qu'on a toujours fait comme ça, alors que quand on y regarde de plus près et quand on se donne la peine d'y réfléchir, on peut penser que, même poser les bases des choses qui étaient faites différemment. Or, quand nous regardons dans le modèle du Nouveau Testament par rapport aux églises, on peut considérer que les églises se structuraient d'une manière collégiale. Ce principe de la collégialité, nous la retrouvons dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs exemples, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais je dirais que l'exemple fondateur, je vais l'appeler comme ça, se trouve même dans la personne de Dieu. La Trinité, ce qu'on appelle la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un seul. Père, Fils et Saint-Esprit. Dans une parfaite unité et collégialité, chacun ayant dans, cette unité, son champ d'action, mais interagissant entre eux dans une unité et soumission. Nous avons plusieurs textes dans la parole de Dieu, notamment dans l'Évangile selon Jean, qui nous parle de cela. Il n'y aurait qu'à lire le chapitre 14, 15, 16, tout à l'heure. Jérôme a cité aussi le chapitre 17 de l'évangile selon Jean. Donc on voit que cette collégialité se trouve même dans la personne de Dieu. Il serait fort intéressant d'ailleurs de faire une étude sur la Trinité. Nous retrouvons cela encore avec Jésus, qui, tout en étant le Fils de Dieu, a pris la peine d'avoir avec lui les apôtres, 12, et puis il y avait aussi 70 autres disciples, et puis bien d'autres personnes autour de lui. Mais il y avait là donc 12 premiers apôtres qui étaient là, qui ont dû apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. Et après l'ascension, on voit qu'ils ont gardé ce principe de collégialité. Jésus les avait envoyés deux par deux. Ils n'étaient pas seuls. Et après l'ascension, après l'ascension, donc on voit qu'ils ont gardé ce principe-là, puisqu'on voit Pierre et Jean qui allaient ensemble, qui étaient ensemble, Paul et Barnabas, puis Paul et Silas. Même Paul, on parle de Paul et Silas, Paul et Barnabas, mais il n'y était pas que deux dans cette équipe-là. Quand on lit certains passages de la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres, on voit que autour de Paul et de Silas, et autour de Paul et Barnabas, il y avait d'autres qui étaient là, qui faisaient partie de cette équipe apostolique. On pourrait citer comme exception le cas de Philippe l'évangéliste qui se trouvait seul. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps été seul. Effectivement, il peut y arriver pour des raisons ou d'autres, mais je ferai remarquer que c'est suite à la persécution, ils ont été dispersés. Et Philippe est parti en Samarie pour annoncer l'évangile, mais qu'est-ce qui s'est passé? Philippe avait ce ministère d'évangéliste, mais après, Pierre et Jean sont venus parce que Philippe s'était contenté d'annoncer l'évangile, mais n'avait pas été plus loin dans son message. Aussi, Pierre et Jean sont venus pour prier pour les Samaritains parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez ? Donc, même Philippe, si à un moment donné a été seul, il ne fonctionnait pas comme un électron libre. Il était là, dans une cohésion, j'allais dire, d'ensemble, puisque Pierre et Jean l'ont rejoint à ce moment-là. Alors, nous retrouvons cela dans les épîtres aussi, cette collégialité dans les épîtres de Paul. D'ailleurs, souvent l'apôtre Paul, quand il commence ses épîtres, la plupart des épîtres, à part les épîtres qui sont personnels comme Paul à Timothée, mais quand il s'adresse à des églises, il n'écrit pas en son nom propre seulement, mais souvent c'est Paul et Timothée, Paul et Sylvain, Paul et Sostène. Donc Paul n'a pas écrit, même les épîtres n'ont pas été écrites seulement par Paul, mais il prend soin de préciser que ces épîtres ont été écrites par lui, mais aussi avec le concours de Timothée, de Sylvain et d'autres personnages. On peut lire dans Philippiens un exemple, Philippiens chapitre 1, verset 1. Juste le verset 1, Paul et Timothée, donc on voit qu'il n'est pas seul, Paul, hein. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Alors là, j'allais dire, ce verset par lui-même pourrait résumer notre étude, puisqu'on voit que Paul n'a pas écrit tout seul. Il s'adresse à toute l'Église, puisqu'il dit « à tous les saints ». Puis il s'adresse aux évêques de cette Église. Alors nous verrons dans le cours de notre étude qu'il y a deux mots grecs qui ont donné le mot « ancien » ou « évêque ». On fera la distinction plus tard. Et aux diacres. Donc on voit que les évêques, il n'y avait pas qu'un seul, pas qu'un seul ancien, pas qu'un seul serviteur. Ils étaient là, donc on voit que ce verset par lui-même pourrait résumer vraiment ce que nous allons voir sur deux dimanches. Il faudrait presque trois dimanches, hein. tellement le sujet est vraiment non seulement intéressant, mais important. Alors, donc cette collégialité a donc des bases bibliques, et nous pourrions bien sûr donner d'autres exemples que nous trouvons dans la parole de Dieu, et notamment pour ce qui nous concerne le Nouveau Testament, parce que c'est le Nouveau Testament qui aborde le sujet de l'Église. Ceci étant dit, il nous faut voir maintenant quels sont les buts de cette collégialité. On peut passer à la diapositive suivante. Les buts de la collégialité, oui, c'est bien beau la collégialité, mais alors pourquoi faire? Si c'est simplement pour avoir et se dire « Ah ben nous fonctionnons d'une manière collégiale », non. Il y a des raisons à cela et des raisons que nous trouvons dans la parole de Dieu, des raisons qui sont d'ailleurs tout à fait logiques et que nous pouvons bien comprendre les uns et les autres. Et le premier point, c'est pour partager la responsabilité spirituelle de l'Église. Le partage de la responsabilité spirituelle de l'Église. Un seul homme ne peut pas être tenu responsable d'un dysfonctionnement de l'Église. Comprenez bien, ça serait un déséquilibre. Comme un seul ne pourrait pas non plus être mis en avant et, comprenez le terme que je vais employer, glorifié si l'Église connaît du succès. Parce qu'en fin de compte, n'oublions pas que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que la collégialité, elle inclut bien sûr la personne du Seigneur qui agit au milieu de nous par son Esprit Saint. Aussi, c'est important pour pouvoir gérer l'Église d'une manière qui soit convenable et paisible, que cela se fasse dans un partage de responsabilités. Et avec ce point va ensemble le deuxième point, c'est pour éviter l'épuisement et le découragement. L'épuisement et le découragement. Quand une Église repose sur un seul homme, on peut comprendre que celui-ci s'épuise et finisse par se décourager. D'ailleurs, ces dernières années, nous avons eu beaucoup de pasteurs qui ont fait des burn-out. Pourquoi ? Parce que les églises ont grandi, les responsabilités, lorsqu'une église grandit, les responsabilités vont grandissantes. Nous avons un cas dans Acte 6. Vous voyez ? Acte 6, c'est quoi? Vous pourrez relire ce passage. L'Église grandissait et les apôtres y faisaient tout. Les apôtres faisaient tout, ils étaient au four et au moulin, et faisant tout, eh bien, ils avaient établi des priorités. Et malheureusement, cela avait créé des tensions dans l'Église. Aussi, l'Église a commencé à ce moment-là à s'organiser, et c'est là qu'ils ont nommé 7 frères pour gérer le service aux tables, c'est-à-dire pour distribuer les aides qu'ils accordaient aux veuves de l'Église. Et nous avons aussi le même phénomène aujourd'hui. Les Églises grandissantes, tant qu'elles fonctionnent, tant qu'elles fonctionneront sur la responsabilité d'un seul homme, celui-ci va s'épuiser, celui-ci va se décourager. On lui demande d'exercer tous les ministères, même celui qu'il n'a pas reçu. C'est quand même un comble, hein ? Et justement, lorsqu'il y a ce partage des responsabilités, des talents et des dons, cela soulage les uns et les autres. Ne sommes-nous pas appelés à porter les fardeaux des uns des autres ? Ça aussi, c'est une collégialité. Donc, ça évite l'épuisement et le découragement que peuvent connaître certains hommes. D'autres raisons à cela, on peut continuer la diapositive suivante, c'est que le travail d'équipe favorise l'amitié. Oui, ça favorise l'amitié, une bonne entente. Parce qu'on a compris qu'il n'y en a pas un qui domine. Parce que quand on est dans un rapport de dominateur à dominé, on peut comprendre que cette notion d'amitié, qui est importante au sein du peuple de Dieu, soit effacée. Mais ça favorise donc cette notion d'amitié. D'ailleurs, le royaume de Dieu n'est pas géré comme les entreprises de ce monde, comme les nations de ce monde. Jésus dira même que celui qui va être le premier, qui soit le serviteur de tous. Ça favorise l'amitié, ça favorise la transparence. La transparence. Ça favorise la soumission réciproque et la complémentarité, sans oublier qu'en fin de compte, quand il y a plusieurs conseillers, c'est quand même bénéfique. Nous savons qu'il y a une réelle sagesse dans le grand nombre de conseillers que Dieu nous donne. Et ne nous privons pas de cela. Ne nous privons pas de cela. Nous pouvons continuer. Ça rejoint déjà un peu ce que j'ai dit, afin que la gouvernance de l'Église ne repose pas sur un seul homme. Ce qui pourrait amener des abus. Ce qui peut amener. Et là, nous avons un cas dans la parole de Dieu. Un homme qui se comportait comme un gourou, c'est Diotrephe. Nous le voyons dans la troisième épître de Jean. Jean va dénoncer cela, l'apôtre Jean va dénoncer cela. Il dira de Diotrephe qu'il aime être le premier dans l'Église. Voilà un homme qui aimait être le premier dans l'Église et qui, non seulement cela, mais agissait en manipulateur et en dictateur dans l'Église. Et ceux qui recevaient les apôtres, eh bien, ils les chassaient de l'Église. Donc, j'allais dire, tout passait par lui, tout était contrôlé par lui, ce qui a mené un déséquilibre, des abus d'autorité, des abus de domination, des abus de manipulation dans l'Église. Bien sûr, tous n'agissent pas comme cela. Mais afin d'éviter cela, eh bien, il est important de comprendre cette notion de collégialité. Et avec ceci, on peut enchaîner avec la discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église. Ça rejoint, bien sûr, tout ce que nous avons déjà vu ensemble. La discipline dans l'Église, parce que parfois il faut discipliner, d'ailleurs, disciple, discipline, ça va ensemble. Ce n'est pas forcément négatif, la discipline, comprenons bien, c'est aussi pour progresser. Mais si elle repose sur un homme, là encore, il peut y avoir un travers, il peut y avoir, là encore, une certaine abus d'autorité qui peut s'exercer quand celui, excusez-moi l'expression, mais dominerait dans l'Église, ne reçoit plus ou ne reçoit pas les conseils des autres et impose sa façon de faire et que toute discipline passe uniquement par lui. C'est important encore afin d'apprendre à être ensemble, bon, ça sera le point suivant, et à servir ensemble. Les décisions doctrinales et les orientations spirituelles de l'Église ne reposent pas sur un seul homme. Dans Acte 15, vous pourrez lire ce passage, il y a eu un problème qui a secoué la première Église. L'Église grandissait, il y avait des églises qui commençaient à être implantées dans plusieurs régions de l'Empire romain, sous l'impulsion des missions de l'apôtre Paul, de Pierre et des autres apôtres. Mais Pierre, ayant un ministère, ayant reçu de Dieu cette orientation d'aller vers les païens, il a donc implanté des églises dans les milieux qui n'étaient pas juifs. Et donc, ce que ça voulait dire que ces nouveaux chrétiens n'étaient pas circoncis. Pour nous, ça ne pose plus de problème. Quoique dans certains pays, ça pose toujours encore problème. Mais pour nous, ça ne cause pas problème en France. Mais on voit là que ça a créé une tension dans l'Église entre ceux qui étaient d'origine juive et ceux qui ne l'étaient pas, à tel point qu'ils se sont réunis pour traiter ce problème à Jérusalem. Et on voit, en fin de compte, on reviendra sur ce passage parce qu'il est vraiment important, que ce ne sont pas seulement les apôtres qui se sont réunis pour traiter ce problème. Ils ont adjoint avec eux les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église. Et ils ont pris une position qu'on pourrait appeler une position doctrinale, avec l'accord, pas uniquement des apôtres, mais des anciens de l'Église. Des anciens de l'Église. Paul exhorte les anciens d'Éphèse à veiller sur l'Église. On peut lire ce passage dans Acte 20, verset 28. À partir du verset 17, on voit au verset 17 que Paul a envoyé à Éphèse les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église. Il y a une Église, mais les anciens, ce sont plusieurs. Il leur a donné plusieurs recommandations, et on va lire seulement les versets 28 et 29. Il leur dira : prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ce mot évêque, je reviendrai, mais c'est aussi le mot ancien. Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après. Donc on voit ici que les anciens sont appelés à paître l'Église, à veiller sur l'Église ensemble. Et cette recommandation, il l'adresse à tous les anciens. Il les invite à la vigilance. Pourquoi ? Parce que parmi vous, il s'adresse aux anciens, parmi ces anciens-là, il y en a qui malheureusement vont mal tourner. Vous voyez ? Il y aura des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais si la collégialité demeure et que l'ensemble reste vigilant, il y aura toujours des loups, mais l'ensemble formant un bloc, ce sera une barrière pour protection de l'Église. Alors que le Seigneur nous aide. Il est évident que parler de la collégialité, on peut en parler facilement, mais la mettre en pratique, c'est autre chose. Ce n'est pas si évident que cela. Ça s'apprend. Et il y a des exigences, l'exigence de la collégialité. Parce qu'il nous faut apprendre à travailler ensemble, apprendre à servir ensemble. Je dirais tout simplement apprendre à être ensemble. Et ce n'est pas si évident que cela. Pour reprendre l'exemple des premiers apôtres, autour de Jésus, ils étaient autour de Jésus. Est-ce que c'était si aisé que ça d'être ensemble ? C'est pas, ils avaient, pour certains, des différences vraiment fortes. Il y en avait quelques-uns qui étaient marins-pêcheurs, puis d'autres... D'autres avaient des arrière-plans différents. Il y avait même le zélote, là, il était peut-être un peu chaud du couteau, celui-là. Et on voit qu'en fin de compte, les disciples, les premiers apôtres, ça a frictionné parfois entre eux. Ils ont dû apprendre à être ensemble. Il y a eu des contestations. Ils ont eu des disputes. Il y a eu des différences de point de vue. Certains briguaient peut-être une première place. Et c'est là que Jésus leur a dit, eh bien, celui qui va être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, apprendre à être ensemble, apprendre à servir ensemble. Cela nécessite bien sûr d'apprendre à se connaître, à se respecter les uns les autres, à comprendre que nous sommes redevables les uns des autres, que nous sommes soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Tout ça, ça va ensemble, tout ça fait partie des exigences. Apprendre à ne plus travailler seul, c'est tellement facile quand on travaille seul. C'est tellement facile. On n'a de compte à rendre à personne. Oui. Mais dans l'œuvre de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. On n'est jamais seul dans l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'on est seul dans son activité dans l'Église, mais on fait quand même partie de toute l'Église, du corps de Christ. D'ailleurs, j'aurais pu, tout à l'heure, quand j'ai donné les principes de la collégialité, citer même cette conception de l'Église qui est un corps. L'Église n'est pas formée d'électrons libres qui font chacun ce qu'ils veulent partout. Non, ils forment partie d'un corps. Donc, même si on est seul dans son activité à l'Église, on fait quand même partie d'un ensemble, on fait partie d'un corps, on fait partie d'une famille, et nous sommes appelés donc à ne pas plus travailler seuls, mais à comprendre que nous sommes les uns les autres soumis ensemble dans la crainte de Christ et que nous travaillons pour le même Seigneur, dans le même esprit, que son nom soit glorifié. Et pour cela, il nous faut bien sûr apprendre à nous connaître les uns les autres, à nous respecter les uns les autres, à respecter ce que les autres font, à ensemble endurer les échecs, car nous pouvons connaître des échecs. Mais lorsque nous fonctionnons en collégialité, je dirais que cela dépasse le simple cadre des anciens, des diacres, ça concerne toute l'Église en fin de compte. Quand nous connaissons un échec, c'est ensemble que nous pleurons. Et lorsque nous avons des réussites, c'est ensemble que nous nous réjouissons, que le Seigneur soit béni et qu'il nous aide ensemble à progresser dans les voies du Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc on voit que ce sujet est important et il nous faut vraiment prier pour cela. Il y a des années en arrière, j'étais pasteur dans une église et nous avions voulu, désiré, souhaité vivement, en tout cas, mettre en place la collégialité dans l'église, au niveau des anciens. C'était en place et ça n'a pas pu aboutir pour une raison majeure et puis peut-être d'autres petites raisons, mais la raison majeure qui a fait que cela n'a pas pu aboutir, même si chacun avait bien compris que c'est vers ça qu'il fallait tendre, c'est la mésentente qui est survenue entre deux frères qui étaient anciens dans l'Église. Et comme quoi, on en revient à notre cœur, à l'état de notre cœur. Nous avons parlé beaucoup ces temps derniers du fruit de l'Esprit, on a fait toute une étude, mais nous ne pouvons pas vivre ces choses si nous ne veillons pas sur nous-mêmes. D'ailleurs, l'apôtre Paul, s'adressant aux anciens, dira « Prenez donc garde à vous-même ». D'abord, il insiste sur ça et sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il est important qu'on puisse veiller à notre cœur parce qu'en fin de compte, le diable va essayer de s'immiscer là-dedans afin que nous n'aboutissions pas à ce désir, à cette volonté d'établir cette collégialité dans l'Église. L'heure tourne et j'aimerais juste faire une amorce par rapport à ce que je vais dire dimanche prochain. Bien sûr, en voyant cette étude, dimanche prochain, à la fin du message, je parlerai, je citerai quelques noms de frères, on s'est déjà réunis, et des frères qui sont pressentis pour faire partie de ce conseil d'anciens. Mais considérons bien une chose ensemble, que ce choix n'a pas été comme ça sorti du chapeau au hasard, mais en fin de compte, ce n'est que, comment dire, l'officialisation de quelque chose qui est déjà une réalité au milieu de nous, des frères qu'on reconnaît comme anciens, mais on évite toujours d'évoquer ce terme. On évite le terme d'ancien. Pourquoi ? Est-ce par pudeur ? Est-ce par crainte de quelque chose ? Mais pourquoi ne pas dire ouvertement ce que tout le monde dit, ce que tout le monde pense ? Et nous ferons ça dimanche prochain à la fin du message. Mais j'en dirai plus dimanche prochain. Les anciens dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, étaient des cadres administratifs et religieux. Et ça, c'était pour l'Ancien Testament, où il n'y avait pas d'église. Il était question d'un pays à gérer, le pays d'Israël. Et on ne gère pas un pays comme on gère une église. Ces hommes étaient des hommes mûrs et expérimentés. Dans l'église, ce sont des frères qui ont une bonne connaissance de la parole de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Tite, et de la vie d'église. Des hommes qui ont une reconnaissance de l'Église. Aussi, pour cette raison, l'apôtre Paul dira à Tite qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. On peut comprendre. On peut comprendre pourquoi. Il faut que ces hommes puissent déjà bien connaître la parole de Dieu et aussi avoir une bonne connaissance de la vie de l'Église. Je dirais aussi que deux termes sont employés dans le Nouveau Testament pour nommer les anciens. Deux termes grecs, presbytéros, qui a donné le terme ancien, et épiscopos, qui a donné le terme évêque. Ce sont deux et mêmes choses. On a l'habitude de dire que le terme ancien est attaché à la personne, tandis que le terme d'évêque est attaché à la fonction. Alors, dans notre héritage culturel et religieux français, quand on emploie le mot évêque, on pense à quoi ? Vous voyez l'héritage culturel qui peut avoir une influence sur notre compréhension de la parole de Dieu. Quand on emploie le mot évêque en France, bon, pas seulement en France, hein, mais on parle d'un homme religieux qui a la responsabilité de toutes les églises dans une circonscription, qu'on peut appeler paroisse, qu'on peut appeler diocèse, ou je ne sais trop quoi encore, de toute une région, non seulement les églises, mais aussi les œuvres para-ecclésiales, des œuvres humanitaires, mais qui dépendent de l'Église. Oui. Quand on parle du mot évêque, on pense à ça. Or, dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est pas ça. C'est pas ça. L'évêque, c'est un ancien dans l'Église qui fait partie de ce collège d'Église. Et nous voulons vraiment voir ensemble, et nous le verrons la fois prochaine, ce que ces anciens faisaient dans l'Église locale, quelles étaient leurs responsabilités. Et non seulement nous parlerons des anciens, mais nous parlerons aussi des diacres et, mes sœurs, des diaconesses. Car c'est important aussi de comprendre que les sœurs ne sont pas écartées dans tout cela. On en parlera que le Seigneur nous aide à, ensemble à établir et à structurer son Église. Que le Seigneur soit béni pour le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Et je le dirai la fois prochaine, mais je le dis déjà dès à présent, n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet, à nous faire part de votre retour, car ça concerne toute l'Église. Car ça concerne toute l'Église. Que Dieu soit béni et qu'il, ensemble, nous aide pour son Église. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à comprendre quelle est ta volonté. Renouvelle notre intelligence afin que nous discernions justement quelle est cette volonté pour l'Église, Seigneur. Ce vers quoi tu veux amener l'Église. Seigneur, nous aspirons à une vie d'Église paisible, saine, une Église qui va de l'avant, Seigneur. Que ton nom soit donc glorifié pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui agit dans l'Église. À toi soit donc toute la gloire, Jésus. Amen.